radiocultura.com.
Alors, je parle de ces trois lieux parce qu'on va parler là pendant trois ans des fameux centres du Pays Basque intérieur, culturel du Pays Basque intérieur, qui auront quand même un poids assez considérable. On est un petit peu fiers de ça. Je ne sais pas si on a beaucoup réussi après, mais bon, on a fait quand même, on a ouvert quelques brèches. Mais sur un, la création de ce qu'on a appelé le centre culturel du Pays Basque au départ, qui va être la première entité culturelle chargé, de par sa définition, de s'occuper quand même un peu de culture basque, officielle, à l'échelle d'Iparralde, qui va être créée donc en 84. Donc vite après nous. Et nous, en tant qu'association adhérente à Piscundea, ça c'est hyper important aussi que vous ayez cette clé. Piscundea, en fait, se crée en 80-81. Suite à des assises qui vont être organisées notamment par deux associations historiques en Pays Basque, c'est ICACH, qui existe toujours, qui est devenu le centre pédagogique ICACH, maintenant reconnu et tout. Ça, je garde comme sans doute l'une des points que j'ai le plus réussi, et à un moment donné, et Euskal Tzaindia, c'est-à-dire les deux grandes entités historico-machin qui s'occupent de langue. Et qui réunissent toutes les associations, mais pas qui s'occupent que de langue, pas que les Ikastola et tout ça, mais aussi les associations qui commencent à être connues sur le terrain culturel. Ikash Piscundea font les deuxièmes assises de la langue et de la culture basque, parce qu'il y en aurait eu d'autres avant. Et ces assises-là vont, dans les deux années à venir, créer la fédération Piscundea qui va rassembler un paquet d'associations culturelles basques de l'époque, dont les trois centres de l'intérieur fait partie. Mais tu as d'autres associations, des associations de danse, de musiciens, des associations dans notre ville, Ustaritz. Bon, il faudrait reprendre. Là, moi, je n'ai pas les archives de Piscundea avec moi, mais il y avait grosso modo, à l'époque, une 35 associations qui vont se fédérer à Piscundea. Et Piscundea va être très important, parce que Piscundea va être l'interlocuteur des pouvoirs publics pour créer le centre culturel du Pays Basque. C'est-à-dire que parallèlement à ce que nous, on est en train de faire ici localement, à l'échelle d'Iparralde, Piscundea se constitue, on en fait partie, et en 84, quand se crée le Centre culturel du Pays Basque, l'interlocuteur des fondateurs institutionnels du Centre culturel du Pays Basque, ça va être Piscundea, et le bureau de Piscundea. Et vont se retrouver au conseil d'administration du Centre culturel du Pays Basque, trois représentants émanant de Piscundea. Qui vont être au départ Ramucho Camblon, si je ne m'abuse, Jean-Henri Chélarier, et sans doute Yakesh Chabéry. Mais je pense que c'est Yakesh Chabéry le troisième. Ou est Ramon Bachoc. Mais je pense que Ramon Bachoc, pas tout à fait encore. Je crois que c'est Yakesh. Mais j'ai un petit doute. Ramucho Camblon, j'en suis sûr, parce que ça va être le premier président de Euskal Herriko Kultur Etxea, du Centre culturel de Pays. Mais on a l'impression de dire que ça y est, c'est gagné, quoi. À l'échelle du truc, on va avoir l'interlocuteur, machin. Créateur du Centre culturel du Pays Basque, l'État, la région Aquitaine, le département des PA, la ville de Bayonne et Piscundea. Mais premier conseil d'administration du Centre culturel du Pays Basque, trois représentants les entités institutionnelles, donc ça fait 12, et trois représentants les associations culturelles. Intéressant. Ça va être l'une des grandes causes du conflit, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on s'en rend bien compte que l'État envoie un chargé donc, d'affaires pour diriger ça en tant que professionnel, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est détaché de Bordeaux, qui s'appelle Pierre-Luc Bonin, qui va être le premier directeur du Centre culturel des Pays Basques. J'avoue qu'avec ce bonhomme, qui est au demeurant extrêmement intéressant, avec qui on est resté très en lien après, qui connaît bien ce coin, il fera du assez bon boulot dans les deux premières années. En fait, comme il n'y a pas de directeur susceptible d'être nommé sur place, parce qu'ils ont trop peur de prendre dans le milieu basco machin, et qu'ils ne voient pas quelqu'un venir à l'intérieur, ils nomment donc, ils détachent quelqu'un de la DRAC, fraîchement nommé, hein, là, hein, dans les années 83-84, hein, se développant en Bordeaux, la DRAC, hein, beaucoup. Mais on est dans les premières années langues, donc ils nomment Pierre-Luc Bonin les deux premières années, donc 84-86, pour mettre en place l'équipe professionnelle du Centre culturel du Pays Basque a démarré la machine. L'ANDAR fera partie dès le départ de cette aventure. Mais il sera embauché par Pierre-Luc Bonnet, etc. Voilà, pour la petite histoire. Donc, voilà. Et ça, c'est les années 84. Et avec lui, Pierre-Luc Bonnet, par exemple, pour faire le lien avec nous, le Centre culturel du Pays Basque nous aidera beaucoup, nous, Bordachouli, à créer la pièce de Tchachisar Batsen à l'époque, qu'on crée avec Bastero, ici, adaptation de la perle. C'est en 85-86 qu'on crée ça. 85, pardon. Et c'est une pièce qu'on présentera au Festival franco-ibérique et latino-américain, ça deviendra plus tard. À l'époque, c'est le Festival de Bayonne. Jean-Marie nous programmera, au Boucon, on jouera cette pièce-là en basque à l'époque, en 85. C'est intéressant, le cercle de Gréco-Casien, 20 ans plus tard, de voir que l'histoire...
Comment s'appelle la pièce?
Ça s'appelle Itchachisar Batsen. Ça veut dire, c'est une adaptation d'un roman fabuleux de Jon Steinbeck, qui s'appelle La Perle. Et on avait adapté ça avec Francis Bastero et Jean-Pierre Lavigoyen. On avait adapté, c'est un roman, petit roman, qu'on avait adapté en pièce de théâtre. Bon, 86 est nommé directeur du Centre culturel du Pays Basque, quelqu'un que vous connaissez tous, c'est Dominique Burecourt, l'actuel président de la scène nationale de Bayonne, depuis 20 ans. Je pense très concrètement que ça doit être le seul directeur de scène nationale qui est en poste depuis 20 ans au même endroit, en France, hein,
ouais.
Parce que ça n'existe pas.
C'est le seul.
Burecourt est nommé, mais Burecourt est nommé pourquoi? Parce qu'il est avant ça directeur de l'ADAMPA à Pau. L'ADAMPA, c'est quoi? L'ADAMPA, c'est une structure qui veut, au niveau du département, promouvoir la musique. C'est le premier directeur de l'ADAMPA. Le premier ou le second, je ne sais plus, mais enfin, il est directeur. Quand la DRAC dit maintenant, bon, le chargé qu'on a mis, Pierre-Luc Monin, pour démarrer la machine, ça va, la machine commence à fonctionner, il se détache et on va nommer, donc, on appelle la candidature et c'est Burecourt qui se retrouve directeur du Centre culturel du Pays Basque. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on sent, nous, Association culturelle basque, que l'État et machin, veut, après les deux premières années un petit peu turbulentes comme ça, mais intéressantes parce qu'on arrive à décrocher quelques sous et quelques projets sont aidés, etc. Nous, le problème des centres de l'intérieur en termes de fonctionnement, on a très bien compris que ça passera pas par là, c'est pas résolu. On sait. Très bien.
Hein?
Ça, 86, avant 86. 86. Là, les années sont très précises, c'est 84-87 parce que le clash au niveau du Centre culturel du Pays Basque, 87. L'Assemblée générale qui va mettre en minorité les rapports moraux et financiers, c'est 87. Burecourt est nommé. Et Burecourt, on sent bien que de suite, il prend beaucoup plus, même que Pierre-Luc Bonin, la configuration de ce que Lang est en train de mettre en place dans des villes de France et tout ça, c'est-à-dire un centre culturel classique, hein, qui pourrait être à Bordeaux, qui pourrait être à La Rochelle, qui pourrait être ailleurs. C'est ce qui va donner les CAC à l'époque, Centre d'Action Culturelle dans les villes. Et on sent bien, Burecourt nous dit dans des réunions, pourquoi nous dit dans des réunions? Parce que nous, pauvres associations qui n'avons et qui sommes extrêmement minoritaires au niveau du CA, on ne représente qu'un cinquième du CA, on avait bien compris qu'on ne pesait pas lourd, mais on a droit à participer à ce qu'on appelle un comité consultatif au niveau du Centre culturel, c'est-à-dire un organe qui est consultatif, qu'on consulte, qu'on réunit de temps en temps pour dire qu'est-ce que le centre pourrait faire, donnez-nous vos idées, etc. Donc nous, on a... Oui, c'est ça, bien sûr. Bon, conscient morale, conscient d'avis. Tu donnes ton avis, mais l'avis est-il suivi, c'est autre chose. Bon. Donc, on participe à ça. Moi, je participe à toutes ces réunions au départ. Je fais partie, donc, en tant que Piscundéa, membre de Piscundéa, je suis délégué au niveau de ce conseil consultatif. Je participe à toutes ces réunions. Et peu à peu, on se rend compte de quoi? Eh bien, on se rend compte que nos avis sont de moins en moins suivis et qu'on est face à une machine qui répond de moins en moins à nos besoins. Alors, nous, nos besoins, ici, sont très clairs aussi, si on dit. On travaille localement. On travaille dans le cadre d'une dimension interassociative et on veut professionnaliser la réalité de cette maison-là. Il faut que vous nous aidiez à ça. De l'autre côté, le Centre culturel du Pays Basque a dit, nous, on peut vous aider sur des projets, mais on n'a pas, nous, mission de professionnaliser un autre lieu. Bon, c'est grosso modo l'argument qui est balancé. Et donc, il y a une crise ouverte de plus en plus. Et les délégués de Piscundea commencent à faire la politique de la chaise vide au conseil d'administration. Ça, c'est les années 86, fin 85-86. C'est-à-dire que les trois représentants de Piscundea ne siègent plus au conseil d'administration. Et il arrive ce qui devait arriver. Au bout d'un an et demi de flottement, où l'Assemblée générale, elle doit bien se faire un jour, l'Assemblée générale, les associations étant majoritaires, mettent en minorité le conseil d'administration. Et c'est le clash. C'est 85. Donc là, j'ai un article, par exemple, disant le CCPB, le Centre culturel du Pays Basque, est-il mort, etc. En 87, le Centre culturel du Pays Basque est coulé. Il y a refus de... Les associations ne veulent plus jouer le jeu, il y a crise ouverte, etc. C'est un contexte très dur aussi au niveau d'autres dossiers très importants de l'Euskalerie, hein, en termes culturels et éducation. Il faut savoir que c'est le contexte où le Conseil constitutionnel casse une proposition d'intégration des îles d'Astola au sein de l'éducation nationale. C'est l'extraordinaire travail qu'avait fait Jean-Louis Maïtia. On était arrivé, on ne dira pas assez ce que ce travail-là a été, d'ailleurs il a payé de sa vie, moi je pense qu'il a payé de sa vie, parce que là il a bossé contre vent et marée pour tenir le bateau à flot. C'était un moment où on avait des aides considérables au niveau de chez HK, au niveau des URSAF et tout ça. On ne savait plus comment payer les enseignants, en fait, c'était la merde, quoi. Et il crée les conditions pour que d'une intégration au sein de l'éducation nationale. Et c'est cassé par le Conseil constitutionnel. Le Centre culturel du Pays Basque se casse la gueule, et les universitaires n'arrivent même pas à décrocher un DEUG de Basque au niveau universitaire. Ça pète, là, hein. Je veux dire, même ceux qui étions, nous, à l'époque, considérés comme les trémous, on est prêt à prendre le fusil et pas avec l'air rose au bout, quoi. Hein. Je veux dire, là, c'est fini, quoi. On discute plus.
Ça, c'est 87.
Ouais, c'est les années 87-89. Là, oui. Là, on a épuisé tout ce qu'on pouvait faire. Nous, ici, évidemment, Koumet nous met des bâtons dans les roues. Bon, il y a des articles de presse. Moi, je me suis payé de certains pamphlets. Bon. Bon, je me suis un peu amusé. Et pas piqué d'un hanneton à l'époque. Mais bon, c'est comme ça. Ça a été la lutte perpétuelle. Là, il y a eu des gens absolument...
On faisait que ça, quoi.
Ouais, parce qu'il faudra aussi qu'on fasse nos autocritiques et tout ça, ouais. Avec la distance, tu sais, je veux dire que il y avait les bien-pensants aussi entre nous qui disaient il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci, mais ceux qui se tapaient les murs et qui retapaient le dimanche, c'était pas forcément ceux qui pensaient très bien mais qui passaient tout leur week-end à tenir la baraque debout, hein. Donc il y avait tout ça, hein. Moi qui suis assez impertinent et qui a un peu donné dans tous les sens, je veux dire, j'espère qu'avant de crever, je dirai un certain nombre de choses, parce qu'il y a des choses à dire. Et il y a aussi des gens de l'ombre à remettre en place dans la lumière. Parce qu'ils ont tenu la baraque à un moment où c'était pas jojo. C'était assez facile, finalement, de se dire il faut faire ceci, il faut faire cela, machin. Et dans des réunions, de s'aborder des trucs. Bon. Ça existe pour vous, ça existait pour nous, et l'histoire continue. Dans 2000 ans, ce sera pareil. C'est pas grave. Radiocultura.com